Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'élection présidentielle en Algérie aura lieu le 12 décembre prochain. La date vient d'être fixée, mais la contestation populaire l'acceptera-t-elle ? Nous poserons la question à un sociologue militant sur place. Nous irons ensuite en Israël, où là, les législatives seront organisées demain. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, a organisé son dernier conseil des ministres dans une colonie en Cisjordanie. Et puis, quelle mobilisation contre la réforme des retraites ? Les professions libérales sont appelées à manifester aujourd'hui en France. Un médecin nous expliquera pourquoi dans quelques instants. Le chef d'état-major algérien Ahmed Gaïd Salah en avait fait son objectif ces dernières semaines. Il n'y a à ses yeux pas d'autre solution de sortie de crise que la tenue rapide d'une élection présidentielle en Algérie. Eh bien hier soir, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a donc formalisé cette demande. Le corps électoral est convoqué le 12 décembre prochain. Mais l'opposition populaire en Algérie qui manifestait vendredi encore pour la 30e semaine consécutive, l'opposition n'est pas convaincue. C'est trop tôt le 12 décembre, voilà ce que dit notamment Nasser Djabi, il est sociologue et fait partie du mouvement de contestation.
Ça va être très difficile. Je crois que le temps alloué à cette organisation, c'est-à-dire 3 mois, n'est pas suffisant pour travailler sur les listes électorales, faire le nécessaire pour une bonne organisation des élections. Il y a aussi l'aspect politique. Les Algériens, au sein du Hirak, ont demandé des mesures d'apaisement, c'est-à-dire la libération des détenus, l'ouverture des médias. Ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu des arrestations de jeunes qui étaient dans le Hirak. Donc, ni les conditions administratives et organisationnelles, ni les conditions politiques ne sont réunies pour une bonne organisation des élections présidentielles. C'est-à-dire que les Algériens ne sont pas tout à fait d'accord pour organiser dans cette précipitation des élections de ce genre qui veulent être un moment qualitatif pour couper avec le système. C'est des élections décisives pour le futur politique de l'Algérie. Donc moi je crois qu'il faut attendre collectivement la position des Algériens le vendredi prochain.
Voilà, c'était Nasser Djabi, sociologue algérien, interrogé pour France Culture par Nabila Hamel. En Tunisie, la présidentielle avait lieu hier pour désigner le successeur au président Essebsi, décédé en juillet dernier. Les résultats de cette présidentielle ne seront connus que demain mardi. Mais 2 candidats hors système revendiquent déjà leur qualification pour le second tour. Il s'agit de l'universitaire Kaïs Saïd et du magnat des médias Nabil Karoui qui est incarcéré depuis 3 semaines pour blanchiment et fraude fiscale. Le second tour de cette présidentielle tunisienne est prévu le 13 octobre. Élection toujours en Israël maintenant. Des législatives vont s'y dérouler demain après l'impossibilité en avril dernier de former un gouvernement de coalition. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, retente donc, lui qui est au pouvoir, rappelons-le, entre 96 et 99, puis sans interruption depuis 2009, soit depuis 10 ans, menacé actuellement par la coalition centriste bleu-blanc de Benny Gantz. Benjamin Netanyahou est plus que jamais en campagne pour convaincre la droite, ainsi que la droite de la droite. Il a même hier délocalisé le Conseil des ministres dans une colonie en Cisjordanie, Frédéric Mettezo.
Benjamin Netanyahou a le sens du décor. Habituellement, le Conseil des ministres se déroule à Jérusalem, mais hier matin, il était délocalisé dans une colonie en Cisjordanie, dans cette vallée du Jourdain qu'il promet d'annexer rapidement s'il est réélu, et il y a donc annoncé la légalisation d'une colonie près de Jéricho, contre l'avis du conseiller juridique du gouvernement. La décision finale reviendra au prochain gouvernement, et voilà comment Benjamin Netanyahou espère convaincre les colons de voter pour lui. De retour à Jérusalem, il a prononcé un discours dans une salle du Parlement pour dénoncer la fraude électorale dans les villes arabes lors des dernières élections. « Ne vous faites pas voler le scrutin », a-t-il dit la voix forte en tapant du poing sur la table et en fustigeant la commission électorale. Sa stratégie est claire, siphonner les partis les plus à droite pour que le Likoud débouche en tête demain et qu'il soit chargé de constituer la prochaine coalition. La stratégie de son rival centriste Benny Gantz est tout aussi claire. Hier soir, il donnait un meeting à Tel Aviv, la grande ville de Gaulle. gauche. Il insiste sur ses 38 ans passés dans l'armée et ses compétences en matière de sécurité. Il se pose en anti-Netanyahou qui maltraiterait les institutions de l'État et il s'adresse à un électorat plus libéral et laïque. Il promet le mariage civil et les transports publics le jour de Shabbat.
Voilà pour les promesses de chacun avant ces nouvelles législatives. Elles auront donc lieu demain en Israël. La production de pétrole saoudienne est réduite de moitié après des attaques de drones avant-hier contre deux installations stratégiques de la compagnie Aramco. Attaque en Arabie Saoudite revendiquée par les rebelles yéménites Houthis, mais Washington n'y croit pas et accuse déjà l'Iran. Les États-Unis sont prêts à riposter, voilà ce que dit le président américain Donald Trump, alors que les prix du pétrole grimpaient cette nuit de plus de 10%. À 6 semaines du divorce annoncé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, Boris Johnson va déjeuner aujourd'hui avec des négociateurs européens au Luxembourg. Des négociateurs très réservés sur les annonces du Premier ministre britannique. Il y a, disent-ils, peu de chances d'aboutir à un accord ces prochaines semaines. Boris Johnson a demandé à rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, aujourd'hui. Les promesses de dialogue et d'écoute du gouvernement français n'y changent rien. La mobilisation s'organise contre la réforme des retraites. Après les salariés de la RATP à Paris vendredi, ce sont les professions libérales qui vont manifester aujourd'hui. Les avocats, les infirmières, les pilotes de ligne veulent défendre leurs caisses de retraite autonomes qui sont la plupart du temps excédentaires. Jean-Paul Hamon préside la Fédération des médecins de France. Il s'oppose donc au régime universel souhaité par le gouvernement.
Mais c'est carrément un hold-up. On a accepté que nos cotisations augmentent. Les médecins payent plus de 30% de cotisations alors que les autres professions payent à peu près 20%. Et là, alors qu'on a constitué 7 milliards de réserves, on s'apprête à nous les piquer purement et simplement. C'est tout simplement inadmissible. Tous ces gens-là, si vous voulez, ce sont des gens qui ont cotisé pour leur retraite. C'est de l'argent qu'ils ont économisé. Et là, vraiment, clairement, l'État, en disant « vos cotisations désormais vont être prélevées par l'URSSAF », on est en train de nous piquer l'argent dans notre poche. Et il faudrait qu'on ne dise rien. Déjà, la France est confrontée à un problème de désertification médicale. On voit que les patients ont de plus en plus de mal à trouver un médecin traitant. Et là, après la réforme des urgences, qui est une catastrophe, on est en train de piquer l'argent des médecins. Mais quel étudiant va vouloir s'installer en médecin libéral avec des projets pareils? On est en train de désertifier la France. On est en train de décourager des gens qui sont au contact de la population. Et je pense que les Français vont pas tarder à le comprendre.
Des propos recueillis par Annabelle Grelier. Annabelle que nous retrouverons tout au long des rendez-vous d'information aujourd'hui à travers des portraits d'infirmières, d'avocats, de stewards, tous mobilisés aujourd'hui pour leur retraite. Eux se mobilisent pour conserver leurs emplois. Les agents des finances publiques font grève ce lundi. Des rassemblements auront lieu un peu partout en France. Après la confirmation de Bercy, 5800 postes de fonctionnaires y seront bien supprimés d'ici 2022. Marine Le Pen ne donne pas d'objectifs chiffrés en vue des élections municipales du printemps prochain. L'ambition toutefois avec le Rassemblement national garde les 11 communes de taille supérieure à 15 000 habitants comme Hénin-Beaumont, Hayange ou Fréjus. Il s'agit aussi d'élargir en partant de ces bastions. C'est ce que le RN, le Rassemblement national, appelle la stratégie de l'inondation. Une stratégie bien intégrée par Arnaud de Rigny. À 23 ans, ce fonctionnaire se présente à Carvin, une commune de 15 000 habitants dans le bastion minier des Hauts-de-France.
C'est vrai que la gestion municipale des Hénin-Beaumont montre que dans les mairies Rassemblement National, eh bien, on est capable de faire quelque chose qui permet vraiment de coller à ce que voulaient les habitants. Donc c'est vrai que c'est important parce que ça montre aussi que le bilan est extrêmement positif. Comme vous le dites, effectivement, à Hénin-Beaumont, c'est juste à côté. Je pense que les habitants de Carvin voient aussi que pas très loin, eh bien, le Rassemblement National peut réussir. Et vous parlez de stratégie de l'inondation, mais c'est vrai que nous avons déjà un potentiel électoral qui est important, d'une part, et deuxièmement, nous avons un maire qui est là depuis 3 mandats et qui voudrait faire un 4e mandat, et nous considérons, nous, que c'est le mandat de trop. Voilà.
Voilà un militant rencontré à Fréjus lors d'un rassemblement du Rassemblement National. Il était au micro d'Anne Fauquemberg. Notons enfin cette journée importante pour Aigle Azur et ses 1150 salariés. Ce lundi, le tribunal de commerce d'Évry va étudier le dossier des offres de reprise pour la compagnie aérienne française. Et selon le secrétaire d'État chargé des transports, transport Jean-Baptiste Djebbari, deux projets de reprise bénéficient d'une attention particulière. Il y a d'abord une offre combinée d'Air France et du groupe Dubreuil qui détient Air Caraïbes, et puis une autre offre d'un transporteur étranger, a priori britannique. Le secrétaire d'État français souhaite qu'au moins 90% des emplois puissent être sauvés. Aigle Azur emploie actuellement 1150 salariés. Ce lundi sera globalement estival, malgré quelques nuages près de la Manche et sur les Pyrénées. Très vite dans la journée, le soleil et la chaleur vont s'imposer. Ce matin, comptez 16 degrés à Brest, 19 à Lille, 20 degrés à Paris, 23 à Besançon, 25 degrés dans la matinée à Bordeaux, Lyon et Nice. Et puis cet après-midi, il fera entre 23 et 32 degrés. La sécheresse pendant ce temps est toujours d'actualité. Aujourd'hui, 85 départements sont encore concernés par des mesures de restriction d'eau. 48 d'entre eux sont en situation de crise, selon Météo France.